Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Cédric Fuentes, Arjuna Andrade, Ilse Tsikar et Aliette Ovin. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Élise Leu.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous poursuivons notre série consacrée à l'opium et autres psychotropes. Après avoir pénétré dans les fumeries de la Chine impériale, c'est un autre marché, illégal cette fois, que nous allons explorer. La France est le premier consommateur européen de cannabis et le marché de la drogue génère chaque année 0,1% du PIB selon l'INSEE, soit 2,7 milliards d'euros. Un chiffre sans doute bien inférieur à la réalité, tant les contours de l'économie du deal sont difficiles à cerner. Alors quelle forme le trafic de drogue prend-il aujourd'hui en France? À qui profite cette économie parallèle? Et quel bilan tirer de 50 ans de lutte contre la consommation et la vente de stupéfiants? Voilà les consommations, voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Pour parler de l'économie du deal, nous recevons aujourd'hui Christian Benlagdar, maître de conférences en économie à l'Université de Lille 2, auteur de l'ouvrage « De l'intérêt de sortir le cannabis des réseaux criminels » paru aux éditions du Bord de l'eau. Avec nous également Fabrice Olivet, directeur de l'association ASUD, auto-support des usagers de drogue, auteur d'une histoire raciale de l'héroïne dans l'ouvrage collectif « La catastrophe invisible » publié aux éditions Amsterdam. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho. Bonjour Christian Benlagdar et Fabrice Olivet.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord, comment se figurer l'ampleur du marché illégal de la drogue en France, Christian Benlagdar? Parce que c'est évidemment très difficile de chiffrer cette réalité, même si l'INSEE s'y est essayé.
Alors oui, d'un point de vue économique, c'est difficile. On a différents indicateurs. Typiquement, les prévalences qui sont quand même mesurées de façon plus ou moins robuste. Donc le nombre de consommateurs, si celui-ci est petit, l'intérêt du marché est faible. L'observation sur les prix, qui est aussi fait par nos services de police et d'autres services d'enquête, et évidemment des estimations de l'ampleur dans sa généralité, que ça soit en volume ou en valeur, du marché des stupéfiants illicites en France. Alors j'ai eu la chance et l'opportunité de réaliser de telles estimations il y a quelques années, estimations, on en discutera, qui ont été reprises par l'INSEE. D'un point de vue méthodologique, c'est très simple. On prend les déclarations des consommateurs, je simplifie, on multiplie par le prix, on a un volume de dépenses et donc un chiffre d'affaires réalisé en France, qui à l'époque de mon estimation avec mes collègues, on avait estimé pour 2,3 milliards en moyenne, avec une grosse fourchette d'estimation, cannabis, cocaïne, héroïne et MDMA, ecstasy.
L'INSEE, qui a inclus pour la première fois donc le trafic de drogue dans le PIB, oui. C'était pour une question d'harmonisation au niveau européen, notamment avec les pays qui ont autorisé certaines drogues.
Les raisons sont complexes et certainement obscures, mais Eurostat désire que l'on intègre des estimations des marchés illicites dans la richesse, l'estimation de la richesse nationale. Alors la France le fait sur les stupéfiants illégaux, ce que je viens de vous dire, l'Italie aussi, mais en plus la prostitution par exemple. Mmh. Bon, on imagine bien que plus le marché illicite est estimé comme grand, plus la richesse nationale prend un coup d'envergure, plus
les
marchés financiers se disent qu'on peut certainement leur prêter de l'argent. Voilà, absolument, il y a certainement des raisons politiques. Le fait est que l'INSEE a repris les estimations que nous avions fait avec David Weinberger et Nasser Lalam et les actualise. Non pas véritablement avec les données de prévalence ni de prix, mais selon une technique propre à l'INSEE qui est à erreur constante, selon les termes, et pour arriver aujourd'hui à 2,7 milliards. Oui.
Alors pour bien comprendre un peu la consommation de cannabis, l'économie du cannabis en France, parce que c'est essentiellement du cannabis dont on va parler, il faut d'abord dire, Christian Benlagdar, que la demande de cannabis a doublé entre 1990 et 2005, et c'est stabilisé depuis. Alors vous allez peut-être nuancer ces propos, mais c'est vraiment à la fin des années 60 qu'on va assister à une massification de la consommation.
Alors j'en appellerai à l'historien si je fais des erreurs, mais depuis qu'on les mesure, au début des années 90, effectivement, on observe une augmentation croissante du nombre de consommateurs, d'usagers de cannabis. C'est aujourd'hui le premier stupéfiant illicite consommé en France. L'envergure de son chiffre d'affaires, c'est aux alentours d'un gros milliard d'euros pour environ 250-300 tonnes consommées. L'autoproduction, parce qu'elle existe, on a du mal à l'évaluer. Elle serait aux alentours de 1 joint sur 10 en France, donc 10% du marché, mais cette estimation date un peu. Bon, c'est le premier stupéfiant illicite jusqu'à preuve du contraire. On rediscutera certainement de cocaïne. Je pense qu'aujourd'hui, la cocaïne, dans sa valeur, pourrait peut-être dépasser le marché du cannabis.
À l'heure actuelle, selon l'INSEE, le trafic de cocaïne représente 800 millions d'euros. Vous avez parlé d'un milliard pour le cannabis. Mmh. Mais le sentiment qu'on a, c'est que c'est un trafic beaucoup moins documenté que le trafic du cannabis, le trafic de cocaïne, Christian Benlagda.
C'est moins documenté, c'est moins visible. Hein. Alors qu'on est sur des 300 tonnes pour le cannabis, on est nettement en deçà. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais on parlerait de une quinzaine de tonnes, peut-être un peu plus, 30 tonnes. Donc voilà, on est sur un rapport de 1 à 10 par rapport au cannabis. Donc moins visible. Des prévalences qui sont aux alentours, selon le dernier baromètre santé, de 1,6% de la population âgée des 18-75 qui aurait consommé dans l'année. Donc on est sur rien du tout, mais en valeur, encore une fois, on est sur quelque chose de beaucoup plus important.
Alors que du côté du cannabis, 11% des adultes ont fumé du hashish au moins une fois dans l'année et 3,6% en consomment régulièrement.
Absolument, on est à 700 000 usagers quotidiens de cannabis. Je tiens à souligner ce chiffre, non pas pour les stigmatiser, mais les problèmes sanitaires se concentreraient dans l'usage quotidien. Hein. Alors on constate de gros consommateurs de cannabis, jeunes. Bon, voilà, je pense que c'est à eux qu'il faut s'intéresser. Le consommateur occasionnel récréatif, d'un point de vue sanitaire, peut poser problème, mais pas plus que ça.
Alors, pour continuer un petit peu ce panorama, on a vu que la demande est importante. Du côté de l'offre, la résine de cannabis vient principalement du Maroc. Comment est-ce qu'elle est cultivée, Christian Benlagdar, puis acheminée en Europe ?
Mais de façon, bon, on a des grosses zones de culture au Maroc. On a quand même une résurgence au Liban. Ça devient plutôt intéressant. La culture libanaise reprend un petit peu d'ampleur. Elle est cultivée dans le Rif, principalement. D'autres chercheurs en parleraient beaucoup mieux que moi. Alors, il y a eu un petit déclin de cette culture, un petit désaveu de la part des Européens quant à l'amour, quant à la résine marocaine, à tel point que, et c'est documenté dans des travaux scientifiques d'ethnographie, que des experts hollandais ont donné un coup de pouce aux cultivateurs marocains pour développer leur culture et surtout améliorer la qualité, puisqu'on aurait une demande de cannabis plus fortement dosé en THC ces dernières années.
Donc THC, le principe actif,
le tétrahydrocannabinol. Mmh. Bon, il y a d'autres principes qui sont recherchés, mais là, je pense qu'on s'attarde sur celui-ci. Comment aller acheminer ? Eh bien, de façon fort classique, bien documentée. Hein, il y a le bateau pour traverser la mer, et puis ensuite des go fast, des go slow. Tous les moyens sont bons, des camions, etc., etc. Enfin, l'importation n'est pas trop le problème, me semble-t-il.
Et alors, comment le prix au gramme de la résine a évolué, notamment par rapport à celui de l'herbe sur le marché français, Christian Benlagdar ?
Alors, ces dernières années, les prix au gramme de rue ont tous augmenté, que ça soit pour la résine ou celui de l'herbe. D'accord ? On est passé des alentours de 5, 7, voire 9 euros pour l'herbe de qualité il y a une dizaine d'années. Non, enfin, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, avec une légère augmentation. Le tout, c'est de dire aussi que la qualité mesurée par la concentration en THC a, elle, très fortement augmenté. Ce qui signifie que lorsqu'on mesure le ratio prix-qualité, celui-ci diminue. Dit encore autrement, le prix de THC pur en France diminue ces dernières années. Un prix qui diminue, c'est une demande qui augmente.
Alors, comment fonctionne ? Alors, un mot, oui, Fabrice Olivier, vous vouliez réagir.
Non, je veux juste réagir par rapport à la manière dont sont présentés tous ces chiffres-là. C'est très intéressant de voir que le terme de prévalence que tu utilises, Christian, est en fait un terme d'origine sanitaire, en fait. Et après, tout le développement qu'on fait, le développement intellectuel qu'on fait, est sur des questions d'offres et de demandes et des questions de marchandises. Donc, on voit bien que la difficulté qu'on a pour appréhender l'ensemble de cette question est toujours sur cette ambivalence maladie, marchandise, comme les autres. Oui. Or, il semblerait bien que quand on parle de prix, t'es le premier à le dire, que c'est la question de la demande qui joue. Et là, on est bien dans une histoire de marchandises. On voit bien que quand on parle d'une maladie, la question de la demande serait au moins mal appropriée.
Absolument.
On va voir
absolument.
Comment ces questions économiques et morales, en effet, s'imbriquent. Mais alors, comment fonctionne cette économie souterraine? Je vous propose d'écouter le témoignage de Djibril, 18 ans, ancien guetteur dans les quartiers nord de Marseille.
Voilà, on y rentre comme ça, hein. Pas de formation, c'est sans diplôme, sans rien, quoi. C'est pour ça que tous les jeunes veulent rentrer dans ça. On nous respecte. Il y en a qui quittent quoi, un an, il y en a 2 ans, et après voilà, ils montent de plus en plus charbonneur. Après charbonneur, ils passent gérant. C'est une genre d'entreprise. En fait, le patron, déjà, on le voit rarement. Il passe vite fait, il vient prendre la paye, et voilà, il part. C'est nous qui prenons le plus de risques, et eux qui prennent plus de sous. Ils gagnent leur pain sur nous, quoi, voilà. Nous, on n'est que des guetteurs. Hein. Pour eux, on n'est rien, mais si on n'est pas là, je vois pas ce qu'ils peuvent faire. Hein. Ils sont cuits. J'ai vendu, ouais, mais voilà, pas toujours. Je fais 2-3 fois, j'ai vendu. Mais ça, je le ferai pas, ça, parce que c'est encore plus risqué, c'est con. En plus, là où j'étais, c'est payé 80 euros, vendeur. 30 euros de plus que guetteur, ça sert à rien. Je préfère guetteur, tranquille, que vendeur. Après, on sait jamais, il y a plus de risques, hein, aussi.
Un extrait d'un épisode des Pieds sur Terre, diffusé le 19 décembre 2012 sur France Culture. Alors, les charbonneurs, ce sont les vendeurs. Finalement, c'est un marché qui fonctionne presque comme un marché légal, Christian Benlagdar.
Qui fonctionne peut-être plus durement qu'un marché légal. À travers les dires de ce jeune homme, on sent poindre quand même une certaine amertume. J'ai pensé à du syndicalisme naissant potentiellement, sauf que ça n'existe pas. Il n'y a pas de couverture sociale. Alors oui, on entend des chiffres qui font peut-être rêver d'autres gens, hein, 50 euros par jour à guetter, 80 euros par jour à vendre. Bon, ça peut produire effectivement un revenu qu'on pourrait imaginer comme confortable, sauf que premier élément de réponse de ce jeune homme, c'est pas toute la vie. C'est dur, c'est stressant. On voit pas le patron. C'est risqué.
Hein. C'est risqué. C'est ça, risqué. C'est un point important. Il y a à la fois la police, il y a la concurrence, les règlements de compte.
Absolument. Les règlements de compte en interne. Le patron ne rigole pas. Et ici, les règlements des conflits se font à la dure, hein, au sein même de l'organisation. On voit bien un système dans ces organisations, ces gros points de vente, hein, bon, qu'ils soient marseillais ou dans certaines banlieues parisiennes, peu importe, mais on voit certaines organisations très pyramidales, avec quand même une distinction des rôles très marquée, des tâches à effectuer très dures, travailler, ne serait-ce que guetter, hein, mais 12 heures par jour à ne rien faire. Et si on fait une erreur, la sanction est physique, voilà.
C'est la question de la répartition des gains du trafic, en effet, qui se pose. On peut se demander si le business de la drogue est toujours aussi rentable ou toujours rentable tout court quand on se situe au plus bas de l'échelle de distribution, Christian Benlagdar.
On pourrait se poser la question, mais on voit bien que ce jeune homme met en concurrence le marché légal du travail au marché illégal du travail. Et son accroche, c'est de dire sans diplôme. Sans diplôme, quelles opportunités j'ai? Eh bien, peut-être aucune, vraiment aucune, sur le marché légal du travail. Et du coup, on voit bien que c'est une solution de repli. Autant rentrer sur le marché légal, si ce n'est pour rien faire, autant gagner 50 euros avec de légers risques. L'arbitrage se fait ainsi, me semble-t-il.
Fabrice Olivet.
Oui, là, je pense qu'il faut quand même introduire le discriminant social, hein, ce que tu fais très bien d'ailleurs dans tes travaux, c'est-à-dire que pour notre fameuse jeunesse issue de l'immigration dans les quartiers sensibles, etc., etc., le problème du chômage, le problème de comment rentrer dans la sphère légale sans soit avoir des réactions, se sentir discriminé, avoir des problèmes d'insertion dans le marché du travail. Et j'ai hélas peur que dans certains quartiers, cette filière-là semble la filière la plus naturelle.
Absolument.
Quand on veut tout de suite avoir accès à un minimum de consommation.
Et en même temps, ce qu'on constate, c'est que le deal de cannabis n'est peut-être qu'une économie complémentaire à celle de l'économie légale.
C'est documenté en France depuis le milieu des années 90. Hein. Il y a une très belle étude qui avait été lancée par le Conseil national des villes sur différents quartiers de grandes zones périurbaines françaises. La conclusion de ce travail, c'était l'économie des stupéfiants en France est une économie de subsistance. Alors, on pourrait trouver 10 000 arguments pour expliquer ou condamner l'entrée sur le marché illégal. Sauf que, à un moment donné, effectivement, quel est l'état du système éducatif dans ces zones de deal? Quel est l'horizon qu'on leur propose? Quel est bon? Eh bien, pas grand chose. Ce n'est que un réseau criminel, parce qu'il faut l'appeler aussi comme ça, qui permet d'obtenir quelques ressources.
Et cela pose d'autant plus de questions, effectivement, sur les raisons qui poussent un certain nombre de jeunes à entrer dans cette économie illégale, que ce qu'on constate, c'est que le salaire des dealers est assez proche de ceux qu'on trouve dans la sphère légale. Il y a beaucoup d'études aux États-Unis qui ont été menées à Christian Banlagdar et qui montrent cela.
Écoutez, il y a un économiste très célèbre, ça y est, dont le nom m'échappe, à chaque fois que je dis ça, j'oublie le nom, qui intitule son chapitre d'ouvrage « Pourquoi les dealers dorment encore chez leur maman ?» Mais pourquoi ils dorment encore chez leur maman? Parce qu'ils gagnent pas suffisamment pour être autonomes. Bon, bah, tout est dit. Il faut monter dans les strates supérieures, prendre de plus en plus de risques et des responsabilités, si tant est qu'on nous en donne, pour que les salaires deviennent de plus en plus confortables. Alors, la tête de réseau gagne énormément d'argent, place énormément d'argent, utilise aujourd'hui en France nombre d'avocats, nombre de banquiers à l'étranger, nombre de réseaux de blanchiment d'argent les plus sophistiqués, pour protéger le pécule. Parce que ils savent bien qu'à un moment donné, c'est pas ad vitam aeternam. La législation s'est renforcée sur ce point. L'arrêt Warsmann de saisie des avoirs criminels, la coopération internationale, fait qu'aujourd'hui, acheter une maison à Marbella, acheter de l'or en France, acheter un petit commerce de blanchiment, n'est plus suffisant. De plus, le fisc vous rattrape même en prison. Vous devez déclarer vos revenus même illégaux, et donc le fisc abat sa dernière cartouche lorsque vous êtes interpellé.
Et alors effectivement, peut-être qu'il faut identifier ces différents ouvriers de cette économie illégale, que sont les charbonneurs, les guetteurs, les nourrices qui cachent les stocks dans leur appartement, les coupeurs qui taillent les barrettes. Là, c'est toute une population qui, elle, un niveau de vie et un salaire extrêmement bas par rapport aux autres strates du marché que vous avez identifié, Christian Banlagdar.
Oui, absolument. On a alors en France, selon les organisations qui ont été démantelées, ce qu'on a pu constater, effectivement, c'est que les nourrices pouvaient gagner 700 euros par mois à stocker du cannabis, un coupeur 50-60 euros, un guetteur 50-60 euros par jour, des vendeurs peut-être 100-120 euros pour, encore une fois, des journées de 12 heures. Risqué. Sans couverture sociale, sans assurance maladie, bien que on constate aujourd'hui des organisations criminelles qui mettent en place des assurances à destination de leur main-d'œuvre.
Quelle forme est-ce qu'elles prennent, ces assurances ?
Si vous êtes interpellé par la police, on va s'occuper de votre famille pendant le laps de temps où vous êtes interpellé. Donc il y a des moyens, voilà. Et ça se professionnalise de plus en plus. Le degré de professionnalisation, il est important parce qu'il veut aussi dire que ces organisations prennent de l'assurance, ont à leur tête des gens de plus en plus éduqués, intelligents, qui voient ça comme un business comme un autre, et qu'on n'arrive pas à lutter contre, surtout.
Et puis cette économie illégale s'inscrit dans un marché du cannabis qui est en pleine restructuration. Il y a de nouveaux pays producteurs de résine comme l'Albanie. Et en même temps, vous en parliez, Christian Banlagdar, la production domestique se développe en particulier aux États-Unis et au Royaume-Uni à travers le développement de l'autoculture. Oui. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ces évolutions et qu'est-ce qui a permis ce développement de l'autoculture du cannabis?
Alors, effectivement, l'Europe, la France, la Suisse, la Grande-Bretagne sont devenus des pays, l'Espagne aussi, sont devenus des pays producteurs de drogue. Ça change un peu la géopolitique mondiale. La menace, pour reprendre des termes douaniers ou policiers, la menace était extérieure. Elle est devenue intérieure. Nous sommes devenus un pays producteur de cannabis. Il faut en prendre conscience. Alors, ça vient concurrencer la résine marocaine traditionnelle. Ça bouleverse les marchés. Ça offre des opportunités aux simples usagers à ne plus côtoyer le marché noir. Sauf que il reprend quelques risques parce que on a constaté que le risque d'interpellation était accru pour celui qui cultivait chez lui et aussi un risque de vol. Une fois que ça c'est bon. Donc il y a quand même des risques à autoproduire pour soi.
Justement, est-ce que c'est qu'un usage individuel? Parce qu'il y a, selon un article de Challenge, il existe aussi des cannabis factories qui seraient tenus par le crime organisé. La police avait découvert en 2016 4 000 pieds dans un hangar désaffecté près de Roubaix, par exemple.
Ça fait une dizaine d'années aujourd'hui qu'en Europe, on démantèle, on constate de plus en plus, effectivement, de fermes à cannabis. Les premières qui ont été démantelées, c'est au Royaume-Uni, où elles étaient tenues par des Vietnamiens. ça s'explique, peu importe, mais bon, voilà, oui, alors...
Ça reste encore marginal, peut-être, par rapport à un usage individuel de l'autoculture ?
Non, mais il y a une balance, de toute façon, entre ces nouveaux producteurs de cannabis et l'autoculture individuelle. Ça prend du temps, ça mobilise des moyens. Du coup, le marché offre un cannabis de meilleure qualité, d'herbe de meilleure qualité. Donc, on arbitre. Est-ce que je fais toujours mes propres gâteaux à la maison ? Non, il y a la boulangerie à côté.
Et il y a la vente de drogue sur Internet, sur le Darknet, qui est également venu bousculer le marché. Je vous propose d'écouter un extrait de la pièce Pavillon Noir, écrite par le collectif Traverse, qui plonge le spectateur dans les méandres du Deep Web, les profondeurs d'Internet.
David Hartmann, qui se tient devant nous aujourd'hui, incarne une menace inédite pour notre nation. Il est le créateur et l'opérateur de la Route de la Soie, un site internet opérant sur le dark web via le portail crypté Tor. Ce site, messieurs, dames, est devenu en quelques années, et ce jusqu'à l'arrestation du prévenu, le plus gros site de vente en ligne de drogue au monde. David Hartmann est un pirate. Un pirate sans foi ni loi qui n'a eu d'autre but que son enrichissement personnel. Grâce à sa plateforme virtuelle, des centaines et des centaines de kilos de drogue ont été écoulés. Nous n'instruisons pas là un petit dealer, hein. Un gamin caché en bas d'un immeuble. Nous parlons d'une organisation criminelle d'une envergure jamais vue. Plus de 105 000 utilisateurs et pas moins de 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, messieurs, dames. 1 milliard payé en bitcoins.
La vente de cannabis sur Internet, Christian Benlagdar, constitue aujourd'hui une concurrence extrêmement importante. Quels sont les avantages ?
L'intérêt de la technologie dans le trafic de drogue est primordial. Hein. Vous me demandiez tout à l'heure comment on peut expliquer l'essor de l'autoculture. C'est la technologie, d'accord ? Les graines... les solutions hydroponiques, et aujourd'hui, eh bien, on a un nouveau médium, Internet, le dark web en fait partie, pour eh bien livrer les produits chez l'usager. L'ONUDC, dans un de ses rapports, s'inquiète d'une augmentation de 300% de saisie de drogue par colis postaux. Aujourd'hui, vous faites livrer par La Poste, Chronopost, sans faire de publicité, mais voilà. Donc oui, ça révolutionne, ça concurrence pas encore tout à fait. Plutôt sur le dark web.
Ce sont deux publics différents.
On va trouver, oui, parce que bon, du cannabis. Peut-être que des cannabinoïdes de synthèse vont plus se retrouver, bien sûr, sur le dark web. Peut-être que des solutions de vaporisation de THC vont se retrouver sur le dark web, même si on peut en trouver, bon, peu importe. Mais voilà, la traditionnelle résine, l'herbe qu'on peut sentir encore, je pense que la vente de rue a encore de beaux jours devant elle.
C'est pour ça que vous parlez, Christian Benlagdar, de marché du THC plutôt que de marché du cannabis.
Je crois qu'aujourd'hui, il faut se concentrer sur les molécules, effectivement. Mmh.
Alors les revenus issus du trafic de drogue semblent très incertains, en plus d'être faibles quand on se situe en bas de la hiérarchie, on l'a vu. Alors comment comprendre que les candidats soient aussi nombreux ? Écoutons les explications du psychiatre Marc Valeur.
Ça fait de longues années qu'on a l'impression que pour un certain nombre de jeunes qui sont un peu désespérés au niveau social, au niveau culturel, au niveau économique, l'idée de devenir dealer est devenue une alternative tout à fait crédible à toutes les carrières possibles. Donc ça a été un des grands tournants, je pense, depuis 40 ans en matière de drogue, c'est le fait que on est passé de l'image du drogué malheureux, dans la peine, dans la souffrance, etc., à toute une imagerie présente chez les jeunes du dealer avec les clips de rap, les bagues en or, les chaînes en or, etc. C'est une évolution sociologique importante.
Un extrait de l'émission Contre-expertise diffusée sur France Culture le 22 août 2011. Donc Marc Valeur nous parle d'une évolution sociologique importante. Justement, on commençait à en parler, Fabrice Olivet, mais quelles sont les conditions socio-économiques qui favorisent le fait de se lancer dans le deal ? Quels sont les territoires peut-être qui sont le plus concernés ?
Non, mais moi je voulais revenir à l'objet, c'est-à-dire qu'il y a encore une fois, on est sur des éléments concrets en économie d'offre-demande, de marché, et l'objet en l'occurrence, quand on parlait du dark web tout à l'heure, c'était bien d'insister sur le fait que c'est plutôt du cannabis de synthèse, et là avec effectivement des problématiques sanitaires qui deviennent un peu différents. Il y a la question de la résine de cannabis. et de l'herbe, qui est pas exactement la même marchandise, donc qui correspond à des demandes différentes. Et effectivement, si on parle des populations qui sont plutôt discriminées, plutôt pris dans des marchés communautaires, parce que c'est le terme qu'on n'a pas prononcé depuis le début, tout ce que tu dis se vérifie parfaitement. Après, je me pose la question sur... ce qui est beaucoup plus invisible, c'est-à-dire le deal de proximité, le deal qui avait été fait hors communauté, mais plutôt par monsieur et madame tout le monde, consommateur, revendeur, et là, qui est certainement beaucoup moins frappé par la police, beaucoup moins stigmatisé, et du coup, qui va s'insérer peut-être dans une économie de complément.
Comment vous définiriez ce deal communautaire?
Le deal communautaire, c'est le deal dont on a parlé depuis tout à l'heure. C'est le deal qui règne dans les médias, enfin qui est visible dans les médias, les supermarchés de la drogue, les histoires de règlements de compte, contre-sociétés qui font frémir à peu près toute une partie de l'échiquier politique situé plutôt à droite pour des questions identitaires. Voilà.
Et puis comme le disait Djibril dans le témoignage qu'on avait diffusé tout à l'heure, pas besoin de formation pour dealer. Or, ce qu'on constate dans un certain nombre de territoires, c'est que les diplômes, ou plutôt leur absence, c'est évidemment un frein majeur à l'emploi. Et ça, c'est vraiment un des aspects importants qui font qu'un certain nombre de personnes se lancent dans l'économie du deal. Christian Benlagda.
Oui, et évidemment, c'est d'une logique imparable. Hein. Vous mettez en concurrence le marché légal du travail, le marché illégal du travail. Vous avez décroché scolairement parce que vous êtes socialement moins pourvu, moins armé, qu'en plus vos profs sont dans un collège pourri qui tombe en ruine. Enfin, les écoles marseillaises ont été fermées parce que les planchers... Donc c'est des gamins, quel avenir on vous promet? Et en même temps, la société vous dit consomme. Si tu veux être, consomme. Ah mais oui, pour consommer, il faut de l'argent. Bon, il est où l'argent? Il est juste là. Alors, il y a différentes techniques pour aussi faire rentrer les gens. On les endette, on les ceci, on les cela. Mais à un moment donné, un gamin qui est un peu riscophile, qui aime le risque, un gamin qui a envie, un gamin qui a peut-être une préférence pour le présent, le tout de suite, l'instantané très forte... Il y va. L'autre, non. 9 sur 10 n'y vont pas. Mais bon, on a un vivier des ressources humaines disponibles.
On va voir dans un instant quelle va être la réponse de l'État, justement.
Entendez-vous l'écho? Tiphaine de Rocchini.
Baby, don't mind. Baby, don't mind.
Red Eyes du groupe The War on Drugs. Nous poursuivons notre exploration de l'économie et du deal avec Christian Benlagdar et Fabrice Olivet. Et j'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à la réponse de l'État face au développement de cette économie souterraine. Le 17 juillet 1971, Richard Nixon lançait officiellement la guerre contre la drogue aux États-Unis. 20 ans plus tard, John Ehrlichman, l'ancien conseiller spécial de Nixon, confiait à un journaliste du Harper's Magazine les dessous de cette opération. Écoutons un extrait de cette interview écrite, lue par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho.
Vous voulez savoir la vérité ? En 1968, la campagne de Nixon et l'administration Nixon par la suite avaient deux ennemis. La gauche, opposée à la guerre, et les Noirs. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous savions que nous ne pouvions pas mettre hors la loi les pacifistes et les Noirs. Mais en faisant en sorte que le grand public associe les hippies à la marijuana et les Noirs à l'héroïne, puis en criminalisant lourdement les deux produits, nous pourrions démanteler ces communautés. On pourrait arrêter leurs leaders, perquisitionner leur domicile, briser leur rassemblement et les diaboliser nuit après nuit au journal du soir. Est-ce qu'on savait commenter à propos des drogues ? Bien évidemment.
Bien évidemment, nous dit John Ehrlichman, l'ancien conseiller spécial de Nixon. La guerre contre la drogue, c'est avant tout une guerre contre les Noirs et contre la gauche, Fabrice Olivet.
Oui, enfin, aux États-Unis, enfin nous, on a aussi des Noirs, donc ça tombe bien.
Commençons par les États-Unis.
Mais non, mais si je disais tout à l'heure, John Ehrlichman, c'est un des plombiers du Watergate. En même temps, c'est un type, c'est cette équipe de Nixon là qui ont été condamnés. D'ailleurs, il a fait de la prison et c'est en sortant de prison qu'il a déballé toute cette histoire. Il faut
en
parler
toute
aussi
transparence,
des droits civiques. Hein. C'est que c'était l'idée, c'était de contrer cette offensive où la communauté africaine-américaine a revendiqué des droits, commençait à les obtenir, changer d'image. Il y avait une échéance électorale aussi, puisque bon, enfin c'est un peu compliqué, c'est l'histoire politique américaine avec les démocrates qui étaient implantés traditionnellement au sud, et donc là les républicains faisaient une offensive sur le petit électeur sudiste très très marqué par les questions raciales.
Et concrètement, à partir du début des années 70, comment s'est déroulée cette guerre contre les drogues ? Par quoi s'est passé ? En particulier par une incarcération massive de Noirs ?
Voilà, incarcération ultra massive, puisque Michel Alexander, elle parle de gens... Il y a plus de gens incarcérés par la guerre à la drogue américaine que le goulag. On est dans des 40 millions de personnes détenues qui deviennent des espèces de sous-citoyens à vie, parce que l'éventail des peines américaines après différents présidents, d'ailleurs pas spécialement républicains mais démocrates aussi, puisque Clinton a fait beaucoup pour ça, rendait les gens, une fois qu'ils avaient été condamnés, incapables de voter, de coucher, des allocations familiales, enfin voilà.
Et il y avait des discriminations légalisées.
Voilà la position dans laquelle ils étaient au moment de l'esclavage. C'est d'ailleurs la métaphore que fait Michel Alexander dans son livre Le New Jim Crow. Elle compare exactement la situation d'une famille qui, sous l'esclavage, se retrouve 3 générations, 4 générations plus tard dans la même situation de sous-citoyenneté à cause de la guerre à la drogue dont elle est victime. Une famille, évidemment, noire américaine.
The New Jim Crow, qui a été un best-seller aux États-Unis, qui a été traduit en France par la couleur de la justice, et qui désigne effectivement ces discriminations envers les Noirs comme des nouvelles lois Jim Crow, donc les lois qui instauraient la ségrégation raciale. Mais pour bien comprendre, Fabrice Olivet, quelle était la rhétorique du gouvernement américain à cette époque-là, et est-ce que c'est dans ce sens qu'il a créé certains mythes autour de la dangerosité des drogues ?
Il le dit très bien. Il le dit, on va matraquer au journal du soir l'idée que les drogues, c'est les Noirs et secondairement la gauche. Mais beaucoup, cette idée que j'ai tenté d'évoquer tout à l'heure, que comme on a affaire à une maladie qui se transmet, l'origine du bacille, du virus, c'est la communauté noire. Et donc, contre ce bacille, tout est permis. Absolument tout. Moralement, tout est permis. On peut mentir, être de mauvaise foi. La question morale est primordiale dans la société américaine. Et donc, la drogue, le fléau de la drogue, qui est inventé comme étant un monstre qui fonctionne par lui-même, se trouve plaqué sur la couleur noire. Et à partir de ce moment-là, tout est permis moralement pour contrer ce monstre. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que pourquoi on se poserait pas cette question aussi si on l'applique à la société française ?
Et avant d'en venir à la France, qu'est-ce que nous disent les statistiques justement aux États-Unis sur les pratiques de consommation d'abord et de trafic de drogue chez les Noirs et chez les Blancs, puisque justement ces statistiques contrairement à la France, existe aux
États-Unis. Oui, les statistiques ethniques, en l'occurrence. Les statistiques nous disent que les Noirs et les Blancs et les autres communautés raciales consomment des drogues à peu près de la même façon, et que les Blancs ayant plutôt plus de moyens financiers, ce sont plutôt eux qui sont à l'origine de la demande. Et comme ce que j'essayais de dire aussi pour la France, les Noirs sont surreprésentés dans les prisons parce qu'on a constaté qu'ils sont ceux qui sont arrêtés par la police, ceux qui sont le plus condamnés lourdement pour les mêmes faits. Il y a même des lois qui étaient spécifiquement appliquées aux drogues vendues et consommées par les Noirs, comme le crack. Alors que la cocaïne, qui est le même produit, en fait, sur le plan moléculaire, était beaucoup moins condamnée par la justice, jusqu'à 12 fois moins, je crois. Alors... Donc, on voit bien qu'on est dans cette perspective américaine de compréhension raciale de la société qui nous échappe complètement.
On va en venir à ces parallèles effectivement qu'on peut établir entre la situation américaine et la situation française. Et d'abord, il faut dire que la France a elle aussi fait le choix de la répression à la même époque, Fabrice Olivet.
Oui, en 1970. Bon, et le discours de Nixon est de 1969. Bon, alors après, voilà, on en tire les conclusions qu'on veut. Et 1970, c'est la guerre à la drogue, mais c'est dans les années 80 qu'elle se déploie avec un maximum d'efficacité et où on commence à rentrer dans une incarcération qu'on peut, toutes choses égales par ailleurs, comme on dit, comparer à la situation américaine, puisque cette guerre à la drogue, elle s'appare beaucoup sur nos quartiers, et nos quartiers qui commencent à prendre une figure de ghetto avec la seconde génération qui arrive à l'âge adulte et qui se trouve enfermé dans ces cités de banlieue et surtout très touché par la ce qu'on a appelé l'épidémie d'héroïne. Mmh. Et là, on peut vraiment parler d'épidémie, quelque chose qui maintenant est historiquement daté. Pendant toutes les années, fin des années 70 jusqu'aux années 80-90, nos cités de banlieue ont été inondées par la consommation d'héroïne et la vente d'héroïne, avec une construction de cette figure qu'on retrouve aujourd'hui encore, la figure de la racaille de banlieue. C'est-à-dire un peu ce que disait John Hirschman, on plaque au journal du soir l'image d'un dealer plutôt maghrébin qui est à l'origine des problèmes rencontrés par la jeunesse française.
Et une épidémie qui a été aggravée aussi par l'interdiction de la vente de seringues en 1972.
Alors,
en France.
Cette épidémie n'est pas aggravée, elle a pour origine... l'interdiction de vente de seringues qui a été prise par décret en 1972, qui est un décret de guerre à la drogue, avec un argumentaire uniquement basé sur le fait de lutter contre la drogue. Il n'y aurait pas eu d'épidémie de sida ou de manière marginale, parce que les pays qui avaient l'autorisation d'accès aux seringues n'ont pas eu d'épidémie de sida parmi les usagers de drogue par voie intraveineuse. Au niveau où on était en France, hein. En France, on était les premiers de la classe, hein. On était en tête des statistiques. Et cette épidémie a frappé massivement les populations issues de l'immigration. Ça, c'est un gros non-dit de la société française, un cadavre dans le placard. Parce que quand on pense SIDA aujourd'hui, on pense plutôt communauté gay, on pense à 120 battements par minute. Mais en fait, l'autre grosse histoire, c'est l'épidémie en banlieue avec un cortège d'enterrements, d'incarcération de masse, de famille éclatée et de repli communautaire extrêmement violent.
À tel point que ce que vous dites, c'est que le stigmate social de l'héroïne est encore très fort aujourd'hui, à la fois dans les cités et dans les prisons.
Alors, il est fort pour une raison simple, c'est que on a laissé ces gens se débrouiller avec cette histoire. Ils avaient une héroïne que les familles, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, ces familles avaient l'impression que l'héroïne, c'était la France, hein, que c'était un espèce de démon venu de la société française. Or, le seul aide qu'ils ont obtenu de la République, c'est la police, qui est venue incarcérer leurs enfants, qui est venue faire exploser leur famille et qui, objectivement, les empêchait d'acheter des seringues. Donc, ils se sont débarrassés du phénomène. Et ils se sont débarrassés du phénomène avec les moyens du bord, c'est-à-dire des moyens violents, ce qu'on appelait des chasses aux tox à l'époque, en fait, qui étaient des réunions de milices de quartier, souvent avec un facteur religieux à la clé, hein, parce que l'héroïne étant assimilée à quelque chose de démoniaque, qui se sont débarrassés des dealers d'héroïne et des consommateurs aussi, lesquels étaient souvent les voisins, hein, les cousins, les frères, les oncles, débarrassés de manière violente, avec un gros stigmate sur la drogue héroïne. Et ensuite, comme il y avait déjà des structures mafieuses qui s'étaient installées par le biais de cette fourniture d'héroïne à la société française.
Ces structures criminelles, elles sont restées.
Ces structures sont restées et on peut penser qu'elles ont basculé vers le cannabis qui, elle, est une drogue beaucoup plus facile à dominer, en tout cas qui fait pas, qui a pas les effets d'overdose et de sida qui avaient occasionné l'épidémie d'héroïne en banlieue.
Fabrice Olivet, vous parliez de la loi du 31 décembre 1970, donc dite loi Marcellin, du nom du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui lance la guerre contre la drogue. Est-ce qu'on peut faire aussi un lien entre cette loi? Est-ce qu'elle a pu être pensée comme un outil aussi de contrôle de la jeunesse dans le sillage de mai 68?
Absolument, absolument, sans l'ombre d'une hésitation. C'est pour ça que l'extrait de John Herschelmann est particulièrement parlant. Et on peut peut-être aller même plus loin. Il y a une histoire postcoloniale en France. Il y a une histoire postcoloniale qui, en 70, venait juste de se terminer avec la guerre d'Algérie, qui avait eu son quota aussi de ratonnades. Et alors, évidemment, on n'est pas dans la situation américaine où il y a cette obsession de la question raciale, mais on est dans une situation française où c'est presque l'extrême inverse, c'est-à-dire une négation absolue de ces questions qui, quand même, on le voit aujourd'hui, par exemple, reviennent systématiquement dans le débat. Quand on parle d'identité et quand on parle de République. Donc, oui, on peut penser qu'en tout cas dans les années 80, lorsque, encore une fois, la question des cités et la question de la drogue se trouvaient parfaitement confondues, une partie des gens qui sont partisans de la répression comme étant la solution de nos problèmes d'immigration est vue dans la guerre à la drogue une opportunité à ne pas négliger.
La guerre contre l'héroïne qui a pu justifier le recours à certaines dérives, comme a voulu le montrer Bertrand Tavernier dans son film L627, sorti en 1992.
Tu t'es pas fait mal au moins? Si. Qu'est-ce que c'est que cette conduite hystérique? Et comme un fou sur un arabe.
Quel arabe? Y'a pas d'arabe, y'a que des dealers. Jaune, blanc, noir, y'a que des dealers. Des dealers de merde. Allez, va taper le PV.
Écoute, Demi, je comprends rien. Quand t'es arrivé, je me suis dit qu'on allait bosser ensemble, que ça allait être bien. Que j'allais apprendre.
Et bah t'apprends, hein? On vient de serrer un gars, on a trouvé sur lui au moins 50 grammes, alors on le garde pendant 4 jours jusqu'à temps qu'il nous balance le nom de son grossiste.
Ouais, en lui tapant dessus.
Pourquoi pas, hein? Qu'est-ce qu'on t'a appris à toi dans les écoles de police? Qu'il fallait lui demander gentiment où il se fournissait, c'est ça? Ou alors qu'il fallait menacer l'expulsion? Mais il en a rien à foutre, Miloud!
Bon, mais tu peux me dire ce matin dans quel cadre juridique on l'a serré aussi?
Oh, mais tu m'emmerdes avec ton cadre juridique! Mais si on veut des résultats, on est dans l'illégalité 24 heures sur 24, Vincent. On n'a pas de pognon, on n'a pas de moyens, on n'a rien, on se démerde! Puis on va pas passer 107 ans là-dessus, non? On a une procédure à faire, alors on la fait. Voilà. Maintenant, tu penses ce que tu veux. Tu penses que j'aime taper sur les Arabes. Tu penses que je vote Le Pen, même si ça te fait plaisir. Tiens, tu vois, je m'en fous. Je veux bosser, moi. Bosser!
La négation de cette question raciale dont vous parlez aujourd'hui, Fabrice Olivet, on l'entend aussi dans cet extrait. Et on voit que la guerre contre la drogue en France a donné lieu à de nombreuses dérives.
Mais ce film, il est extrêmement symptomatique. Parce que c'est aussi l'illustration de ce qu'on vient d'essayer de démontrer quand on parle de négation des questions raciales et même de cette idée du fléau de la drogue qui doit subordonner toute autre considération morale. Et en fait, si pour ceux qui connaissent le film, hein, L627, la personne qui parle, qui dit « j'en ai rien à foutre, qu'il soit arabe », c'est la personne positive du film. C'est lui qui tient le langage auquel le spectateur doit s'identifier en disant « le fléau de la drogue, c'est tellement atroce, tellement horrible que tout est permis, y compris de taper sur la gueule des Arabes. » Et enfin, quand on revoit ce film aujourd'hui, il y a des relents extrêmement racistes, avec des mélanges entre justement cette jeunesse issue de l'immigration et l'immigration tout court. Les Miloud en question, on ne sait pas si c'est des Français ou c'est pas des Français. Enfin, on voit bien que c'est le personnage positif est une prostituée, évidemment, petite Française, bien blanche, bien blonde, frappée par le sida. Enfin, encore une fois, dans cette déroulée que le fléau de la drogue est une espèce d'hydre, de monstre contre lequel tout est permis, quoi. Y compris de ne pas avoir pris en considération que cette population issue de l'immigration était la première victime.
Comment expliquez-vous aujourd'hui, Fabrice Olivet, que la France ait autant de difficultés, c'est ce que vous dites, à penser la question de la race, qui évidemment, si elle n'est pas une donnée biologique, peut être une donnée sociale au moins et reconnue comme telle.
Au moins, comme vous dites. Mais bon, enfin ça, après moi je suis pas le spécialiste de cette question. Il y a d'autres gens qui en parlent beaucoup mieux que moi. Mais c'est clair que l'universalisme républicain a sa part, qu'on a beaucoup de difficultés, y compris à gauche, à penser ce que les Américains continuent à appeler la race. Hein, même le terme est extrêmement suspect en France. Ce qui est sûr, en tout cas,
il y avait eu un débat autour de l'inscrire dans la Constitution.
Oui. Bah, d'ailleurs, je crois que c'est passé dernièrement. Hein. Enfin, en tout cas, c'est tout l'objet de ce débat qui nous fait d'ailleurs taxer de racistes par les anglo-saxons. Ce qui est sûr, c'est que si on prend cette question des drogues uniquement du point de vue de la répression, ça nous enlève tous les outils rationnels qu'on pourrait obtenir pour pouvoir mesurer le degré de stigmatisation que subissent certaines communautés avec ce prétexte de guerre à la drogue. On est absolument aveugle et sourd sur la question.
Et alors justement, quel bilan est-ce qu'on peut tirer de cette politique du tout répressif ? L'idée, c'était de faire diminuer l'offre. Or, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, en 20 ans, donc de 1990 à 2010, le nombre d'affaires de stupéfiants traitées chaque année par les forces de l'ordre a été multiplié par 6. Aujourd'hui, on peut faire on peut estimer que c'est un échec de cette guerre contre la drogue, Christian Ben Lagdar ?
Évidemment. Quel autre mot ? Non, évidemment, on est en plein échec. Alors, pas tout à fait finalement, parce que si...
Vous voyez qu'il y a un peu de nuance.
Ouais, je prends, parce que, soyons policiers, essayons d'obtenir, alors je vais être un peu caricatural, mais peu importe, essayons d'obtenir notre prime de fin d'année, et pour ce faire, il nous faut résoudre des affaires. Comment on fait ? Le plus facilement en France, on va interpeller de l'usager de drogue. Interpeller un usager de drogue avec en sa possession un gramme de cannabis, un petit peu de cocaïne, c'est une affaire résolue. Vive la bâtonnite, on empile les affaires résolues, on touche nos primes de fin d'année. Nicolas Sarkozy, en son temps, avait imposé cette polémique, ce qui explique l'augmentation du nombre d'interpellations d'usagers. Par contre, les revendeurs, les trafiquants, l'augmentation n'est pas sur un coef x6. Hein. Mmh. On est en plein... Et alors, paradoxalement, quand on met en parallèle les courbes, plus on interpelle en France, plus les gens consomment. Si ça, c'est pas un échec, enfin, j'en veux rien.
Et justement, vous parlez des interpellations et ça rejoint à nouveau la question ethnique, puisque on sait évidemment que les interpellations sont beaucoup plus importantes auprès des Noirs et des Arabes, Fabrice Olivet.
Il y a un ex-policier, une ex-flic, comme elle se définit elle-même, qui s'appelle Bénédicte Desforges, qui est très très forte là-dessus pour démontrer à la fois l'intérêt financier qui existe à l'intérieur de la police sur la politique du chiffre, du commissaire au gardien de la paix, où apparemment il y a des primes qui sont directement liées à ce que tu décris, c'est-à-dire les affaires résolues en même temps que l'arrestation, et évidemment qui s'exercent sur cette population visible. Parce que c'est ça le problème de la fameuse race, c'est qu'avec nos populations post-colonial, on a affaire à des minorités visibles. Ça se voit. On peut se retrouver, et ça, tous les usagers de drogue le savent. On avait fait une collecte sur notre site qui s'appelait Guerre à la drogue, guerre raciale, de témoignages, notamment de Français de souche, d'usagers de drogue, qui disaient le nombre de fois où je me suis retrouvé dans un groupe où j'étais le seul Français de souche, comme par hasard, les policiers, je suis le seul auquel ils ne sont pas adressés, c'est moi, et j'ai vu tous mes copains partir en garde à vue.
Christian Ben Lagdar.
À ce sujet, Marie-Danielle ou Marie-Dominique Barré du 16-DIP, une sociologue qui suit le travail policier, qui les suit au jour le jour, parle de clientèle. Les policiers ont une clientèle, et cette clientèle a comme particularité, alors bien évidemment, elle est souvent issue des minorités ethniques, mais elle a déjà été interpellée. Donc, qu'est-ce qui explique l'interpellation pour détention, usage de stupéfiants ? Le fait d'avoir déjà été interpellé. Donc, une fois qu'on a mis la tête sous l'eau de quelqu'un, on continue.
Et alors, face à cet échec, est-ce que vous préconisez l'un et l'autre ? Est-ce que la question des statistiques ethniques devrait revenir sur la table, selon vous, à Fabrice Olivet, pour reconnaître cette donnée-là ?
Pour moi, c'est une évidence, mais c'est une évidence qui a effectivement un lourd contenu politique et idéologique, notamment à cause de tous les débats que nous avons actuellement sur la question identitaire. Je pense que la guerre à la drogue dans le fossé qui pour certains Cassandre risque de se terminer en guerre civile qui existe entre plusieurs parties de la population française, la guerre à la drogue y est pour beaucoup. Là, encore une fois, la construction de la racaille de banlieue, c'est la fin des années 70, les débuts des années 80, le moment où les mouvements beurre ont essayé de se structurer et ont rencontré toujours pareil, du compris à gauche comme à droite, cette incompréhension des questions d'identité, des questions communautaires.
Et que changeraient les statistiques ethniques alors
au moins on mesurerait le degré de stigmatisation, le degré d'insertion sociale, le degré de paupérisation, le nombre de ménages monoparentaux, enfin tout ce qui fait la possibilité de mesurer la discrimination dans notre pays.
Vous partagez ce point de vue, Christian Benlagdar ?
Je le partage de plus en plus. Il y a encore quelques années en arrière, effectivement, j'aurais été peut-être réticent, mais en lisant des auteurs comme Desrosières qui nous disent effectivement que pouvoir chiffrer, pouvoir objectiver, c'est gouverner. Aujourd'hui, on est dans la gouvernable et on est sur du fantasme. Et grosso modo, les institutions font ce qu'ils veulent parce que c'est pas objectivé. Donc,
on peut aussi penser qu'il y aurait un risque encore plus important de stigmatisation avec des statistiques.
Écoutez, si on stigmatise de manière objective, on peut stigmatiser de part et d'autre. Enfin, je préférerais avoir des gens avec des arguments chiffrés et j'ai les mêmes chiffres pour discuter. Là, c'est de l'idéologie, le mot.
C'est un discours qu'on entend depuis très longtemps et en fait, tout ce qu'on voit des pays anglo-saxons actuellement nous prouve le contraire. C'est-à-dire, c'est eux qui nous donnent des leçons en matière de justice communautaire, on va dire, de justice entre communautés et minorités visibles, c'est-à-dire que le thermomètre est cassé et que quand on casse le thermomètre et que c'est le fruit d'une majorité raciale, on peut se penser quel intérêt elle a à maintenir cette situation de fait et de continuer finalement à régner sans partage.
Et dans cette lutte contre la drogue, l'autre grand débat, et c'est évidemment autour de la légalisation du cannabis, d'abord la dépénalisation du consommateur, ça peut être la première étape, c'est souvent envisagé. Qu'est-ce que vous en pensez, Christian Benlagdar, et plus largement de cette légalisation du cannabis en France?
Je suis favorable, sur la légalisation du cannabis. J'ai réalisé quelques travaux qui montrent tout l'intérêt. On est de toute façon dans cette voie. Il faut bien comprendre qu'on a quand même des drogues légales que sont l'alcool et le tabac qui sont moins en moins autorisées à la vente et à la consommation. On a des drogues considérées comme encore illicites qui sont de plus en plus considérées propres à la consommation. On ouvre des salles de consommation à moindre risque et c'est tant mieux. Salle de consommation à moindre risque où on n'a pas le droit de fumer du cannabis, ni du tabac, mais on a le droit de s'injecter. Bon, en tout cas, ce double mouvement où on interdit de plus en plus les drogues légales et on autorise de plus en plus les drogues illégales, voilà, laisse dessiner à terme un modèle de gestion où les substances psychoactives, l'altération volontaire de l'état de conscience sera autorisée dans un cadre légal. Lequel ? J'en ai aucune idée. Mais l'illégalité va prendre fin.
Et alors, quels seraient les effets économiques produits, selon vous, par une légalisation du cannabis ? Il y aurait notamment beaucoup de rentrées fiscales pour l'État, ça peut être un argument.
Je crois que c'est un argument, mais finalement, l'économiste qui vous parle vous dira que c'est un argument de seconde zone. Le premier, je crois que c'est la justice sociale.
Cette question de la légalisation du cannabis, c'est aussi une question qui est importante pour vous, Fabrice Olivet, et qui est nécessaire aujourd'hui.
Il faudra voir de quelle légalisation il s'agit. Parce que, bon, clairement, moi je pense que l'histoire est en marche de ce côté-là. C'est les États-Unis, qui ont pris le lead de la croisade contre la drogue. C'est aujourd'hui, eux, comme par hasard, qui prennent le lead de la légalisation. Bon, avec d'autres pays en Amérique du Sud qui souffraient de beaucoup de conséquences de la guerre à la drogue.
L'Uruguay.
Mais des questions de violence, notamment, et qui étaient consécutives au marché américain, à la demande du marché américain. Donc, aujourd'hui, il y a cette légalisation à l'américaine qui est beaucoup axé sur la liberté individuelle, on le dit pas assez, hein, le fait que les Américains sont hostiles au fait que l'État intervienne dans des histoires de vie privée, mais évidemment des questions économiques, les deux étant parfaitement liés, après il y a un risque d'avoir une légalisation qui se fait par l'argent uniquement et qui laissera de côté les questions sociales et où les pauvres continueront à fumer des choses de pauvres et à se fournir dans le marché noir et donc à être incarcérés.
Absolument.
On en reparlera en tout cas demain de cette question du grand marché du cannabis, du nouveau marché du cannabis légal. Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur la décision du gouvernement d'instaurer une amende forfaitaire pour la consommation de cannabis.
Absolument. Il faut dire que le dispositif juridique concernant les fumeurs de cannabis n'avait pas été revu depuis près de 50 ans et le vote de la loi relative à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses le 31 décembre 1970. Un texte qui prévoyait une peine allant jusqu'à un an de prison et 3 750 € d'amende pour les usagers de drogue, qu'il s'agisse de cannabis, de cocaïne ou d'héroïne. Une indifférenciation pénale qui, outre son inefficacité notoire en matière de lutte contre la consommation, a eu pour effet d'encombrer les services de police et de justice saturés de cas d'interpellation pour simple usage. 160 000 en 2016, selon l'Observatoire des drogues et des toxicomanies, soit 3 fois plus qu'en 1995.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a lui-même acté l'inefficacité du dispositif de répression français.
Absolument. Dans une récente interview, le ministre a rappelé que la France avait l'arsenal répressif le plus dur d'Europe, mais aussi la consommation de cannabis la plus élevée. Il a ainsi estimé qu'il était nécessaire de prendre la mesure de cet échec français en matière de lutte contre la consommation de drogue et de cannabis en particulier. Il s'est donc prononcé pour un maintien de la pénalisation et pour la mise en œuvre d'amendes forfaitaires et systématiques pour les usagers de cannabis. Le problème, c'est qu'il semble y avoir un gouffre entre les objectifs de lutte contre la consommation et de trafic affichés par le gouvernement et la politique effectivement mise en œuvre. En effet, si le gouvernement acte la nécessité de revoir un appareil répressif inefficace, rien n'est prévu pour la prévention ou l'accompagnement des consommateurs.
Le passage à l'amende forfaitaire aurait donc pour seul objectif de libérer du temps pour la justice et la police.
Absolument. De l'aveu même des syndicats de police et de magistrats, cette mesure relèverait en réalité d'une simple logique de gestion des flux et du temps. Si l'on peut se féliciter du fait que les policiers et les magistrats passeront désormais moins de temps sur ce type d'affaires, il faut néanmoins relever que cela ne signifie en aucun cas une baisse du nombre de contrôles dont on a vu qu'il n'avait que peu à voir avec la lutte contre la drogue. En réalité, certains chercheurs s'inquiètent des dérives possibles d'un tel dispositif, car en se passant de la sanction individuelle et contextuelle prononcée par un magistrat, le risque pour la société est de renforcer encore le caractère inégalitaire de la répression. Comme le rappelle un article de Mediapart, et comme nous avons pu l'entendre au cours de cette émission, les interpellations et contrôles relatifs à la drogue sont en effet loin de toucher également tous les publics.
Des inégalités de traitement en matière d'âge, de genre ou encore d'origine ethnique et sociale.
Exactement, les hommes représentent ainsi 94% des interpellés alors qu'ils ne sont que 66% des consommateurs. De la même manière, cette amende risque de concerner avant tout ceux qui fument à l'extérieur et qui se font plus facilement appréhender, à savoir les lycéens, les étudiants et les jeunes de quartiers populaires. Il faut dire qu'au-delà de 30 ans et dans les milieux les plus favorisés, la fumette a tendance à se retrancher, à quitter les bancs publics et les abris de bus pour retrouver l'alcôve, le canapé feutré au sein du domicile, bien loin des zones d'intervention de la police donc. If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil. Got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil.
Wow, Way Down in the Hole des Blind Boys in Alabama. Vous avez peut-être reconnu le générique de la série The Wire qui met en scène une brigade de police cherchant à démanteler un réseau de trafiquants de drogue grâce à un système d'écoute. Ça se passe à Baltimore et si cela vous intéresse, la compagnie des auteurs de Mathieu Garrigou-Lagrange avait consacré 4 épisodes à son créateur David Simon. Merci beaucoup Christian Benlacdar et Fabrice Olivet de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans les méandres de cette économie du deal. Demain donc c'est le business légal du cannabis en Amérique du Nord qui va nous intéresser. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Gotta keep the devil